saine cause, du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Dunis.
Bonjour, ici André Dunis pour une nouvelle émission sur Radio Couleur Chartreuse et Grésivaudan, j'espère, parce que là, le sujet, il est important. Hein. C'est, on fait le bilan deux ans presque jour pour jour après la grande manif de l'Épin, 400 personnes, pour sauver la voie de chemin de fer, les horaires, les trains entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry. Une ligne dont Yves, ici présent, Nicolas, ici présent, deux acteurs clés du collectif qui s'est constitué à cette époque, disent que c'est une ligne massacrée. Donc, nous parlons aujourd'hui, et s'intéresse fortement la Chartreuse partie nord, parce que les gens de tout le coin là-bas, vous prenez le train à l'Épin. Alors les gars, on se présente, Nico.
Oui, bonjour. Alors, je suis un usager, et donc c'est surtout ça que j'ai envie de faire partager, hein, mon expérience à la fois au quotidien dans le train, et puis un petit peu la lutte qui a démarré à partir de 2018, date à laquelle, effectivement, c'est surtout Yves, hein, qui était à l'initiative au début du collectif, et que j'ai rejoint ensuite. Et bon, là, c'est pas trop pour parler au nom du collectif, c'est plus ce partage d'expérience.
D'accord.
Oui, donc ben j'ai eu le bonheur de commencer à faire vivre une pétition et puis à construire avec d'autres un collectif. Ensuite, alors c'est vrai que notamment Nicolas a pu poursuivre l'aventure. Bon, j'ai dû, pour des raisons personnelles, interrompre un peu ma participation. Ça a été une aventure humaine très intéressante dès le départ. Alors, juste pour compléter ce que tu disais, André, ce qui était au cœur de ce collectif de défense de la ligne, c'était surtout la défense du train, du quotidien, du TER. Et il faut bien rappeler que ce TER, il est sur une ligne qui relie deux grandes agglomérations, Lyon et Chambéry. C'est la ligne historique la plus courte qui relie les deux agglomérations. Et sur cette ligne, on a vite compris dans les dernières semaines avant la nouvelle grille horaire proposée que la desserte TER allait être réduite à quasiment néant, puisqu'on passait de 15 à 16 trains aller-retour Lyon-Chambéry à 2 trains et ça devait se passer donc le 9 décembre 2018.
Oui, alors on continue, mais il y avait des cars.
Il y avait des cars, oui, alors c'était un petit peu le moyen qu'ils ont trouvé à la dernière minute, hein, parce que tout ça s'est passé de manière en catimini, c'est sorti juste avant la mise en place de ce service-là, donc c'est pour ça que la lutte a dû se mettre en place. Bon, les cars, c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite, on y reviendra sûrement plus tard, c'est polluant, c'est au niveau horaire, c'est loin d'être satisfaisant. C'est vrai que les gens ont tendance à pas le prendre, donc ce qu'on voit circuler, c'est surtout des bus vides. Et finalement, cette pétition et cette manifestation qui a suivi a été très bien reçue de la part du public, puisqu'il y a eu un réel engouement, hein, 400 personnes à cette première manifestation, avec arrêt de train, les médias. Et là, on a vu que les gens avaient pris conscience de l'importance de cette ligne, en fait.
C'est pour ça que le logo dit...
Le logo, c'est collectif de défense et de promotion du train en avant-pays savoyard.
Et le logo, il dit « Mon train, ma vie ».
Mon train, ma vie, effectivement.
Oui, parce que beaucoup de gens travaillent sur la Globe de Chambéry et à Lyon. Hein.
Exactement. Je crois que c'est les chiffres que Kive nous avait rappelés avant. 50% des emplois sur l'avant-pays savoyard, c'est en direction de Chambéry. Et au niveau des gens qui prennent le train, il y en a... deux tiers qui vont sur le bassin chambérien, un tiers vers Lyon, au niveau des pendulaires. Voilà, donc ça c'était un peu pour les chiffres. Peut-être rappeler avant ce qui existait. Avant, c'était 16 trains aller-retour, des directs, on appelle ça direct, qui passaient donc par l'avant-pays savoyard, effectivement, Chambéry-Lyon. Donc là, on nous a proposé deux trains dans chaque sens par jour, donc c'était vraiment pas assez. Ce qu'on a réussi à gagner finalement pour à l'arraché hein, pour 2019, c'est de parvenir à la situation actuelle hein, qui dure depuis un certain temps avec 6 Lyon-Chambéry et 5 Chambéry-Lyon direct. Donc on voit qu'on n'est pas revenu au 100%.
Alors, c'était quoi les causes dont ils arguaient la région et SNCF Mobilité ?
Alors, les causes principales, c'était les travaux de la Part-Dieu, qui a valu cette réduction donc drastique, et aussi, c'était la cause invoquée pour que les trains ne reviennent pas à ce qu'il y avait en 2018 rapidement. Bon, sauf que entre-temps, avec pas mal d'investigations, on a vu que c'était pas les seules raisons. Hein, je crois que ça c'est important de le mentionner. C'était pas les seules raisons.
On l'a su comment à la réunion de Domessin.
Alors,
on était 150 dehors.
C'est au travers des différentes réunions, ouais. Effectivement, avec la région et SNCF, quand ils ont bien voulu venir, parce qu'il y a même des réunions où ils étaient conviés, ils avaient dit qu'ils venaient et ils ne sont pas venus. Donc,
c'était pas brillant. Hein.
C'était pas brillant. C'était à Pont-de-Beau voisin, ça. Alors, quelles sont peut-être les autres causes ? Alors ça, on va peut-être en discuter, mais on l'a vu aussi parce qu'on a suivi un petit peu comment les grilles horaires étaient fabriquées, à quel moment. On a pu contacter d'autres collectifs.
Oui.
Et c'est vrai que c'est là où on a compris qu'il y avait d'autres points, d'autres enjeux.
Alors Yves, c'est toi, tu étais un peu au jus puisque tu as bossé à la SNCF du coup.
Oui,
plus de l'intérieur.
André, merci de me dénoncer en tant qu'ancien employé du groupe SNCF, tu as raison, mais c'est vrai que ça a apporté une plus-value parce que je connaissais le système de l'intérieur et ce qui a été redoutable en 2018, c'est l'absence d'informations déjà, en direction des élus, en direction des usagers.
Tu veux dire que les élus n'étaient même pas au courant ?
Les élus n'étaient pas au courant.
Tu parles des élus locaux ?
Des élus locaux. On avait une association d'usagers qui avait tenté, néanmoins...
Tu parles de l'ADUT ?
L'ADUT avait tenté d'intervenir en les prévenant qu'il se passait quelque chose de pas très net. Alors, bon, il est vrai que les informations ont été distillées de manière très... peu clair par notamment la région et la SNCF, surtout en octobre. J'ai pu comprendre entre les lignes que ce qui allait arriver était particulièrement grave, mais il fallait vraiment lire entre les lignes, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il n'y avait pas la volonté de la SNCF et de la région d'être clair sur le mauvais coup qui arrivait. Et je crois que, bon, il faut le dire... l'argument des travaux en gare de Lompardieu est un prétexte éhonté car
on disait à l'époque que ça impactait sur 10 à 15% hein, du mouvement, mais pas comme nous 80%.
Tout à fait. Voilà. Donc l'ensemble des lignes de la région Rhône-Alpes ont été impactées à hauteur de 10-15%. Et nous, c'était du 80%, c'est-à-dire que la ligne TER entre Lyon
et on est revenu sur d'autres lignes à 100%, comme par exemple notre ligne jumelle avec qui on partage un tronçon, la ligne qui va
de
Grenoble jusqu'à Lyon, a retrouvé 100% de ses trains très
et
rapidement.
Et nous on a retrouvé, donc comme tu l'as dit, 6 dans un sens, 5 dans l'autre.
Nous on est simplement à 50% de ce qu'il y avait avant,
à peine 50%.
Et donc, nous avons dû créer ce collectif. Alors bon, c'est intéressant de s'arrêter quand même quelques instants. Pourquoi on a dû créer un collectif ? J'ai abordé tout à l'heure l'existence de l'ADUT, Association des usagers du transport, qui n'ont pas réagi à la hauteur de ce qui se passait. Et donc, nous avons alerté du coup, effectivement, tous les habitants, les usagers. Les élus ont rapidement compris que ce qui se tramait était particulièrement grave. Bah, pour l'avenir même de l'avant-pays savoyard, puisqu'il y a des enjeux aussi économiques, mine de rien, l'été, hein, avec le tourisme. Et donc, on a pu mobiliser et on s'est retrouvé à la gare de l'Épingle de décembre avec 400 personnes. Et si vous retrouvez des archives, vous verrez énormément d'élus avec les écharpes tricolores devant la locomotive. Ceci dit, voilà.
C'est le collectif qui a fait cette disposition, vu l'émotion, de travailler avec les cheminots, d'arrêter un train.
Le collectif est peut-être, c'était un balbutiement, hein, je ne sais pas si on peut appeler ça le collectif, mais il y avait une énergie populaire.
Effectivement. C'est vrai que...
Et donc ils ont poussé, tout le monde a poussé les élus à assumer de défendre la ligne, un petit peu en les poussant devant la locomotive, on va dire. Ils n'étaient pas très chauds, si je me souviens bien.
Oui, alors, bon, la suite d'ailleurs a montré que les élus n'avaient pas tellement envie de participer à la vie de ce collectif, qui était pourtant un collectif d'habitants. On les a très régulièrement incités à nous rejoindre. Ils ont préféré, il faut le dire, clairement, des conciliabules, des petites réunions, confortables avec la région de la SNCF. Si vous regardez les abords aujourd'hui des villages de l'avant-pays savoyard, vous avez de superbes pancartes, la région aide les communes.
Eh oui.
Il y en a une d'ailleurs devant la gare de Saint-Béron. Résultat, deux ans après, la région aide des communes surtout à investir dans le covoiturage ou la bicyclette.
Ah. Alors, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ce qu'on a rapidement compris aussi, c'est que...
Outre les bus, si on me permet, hein, rapidement, puisque j'ai dû prendre le bus, moi, pour aller à l'hôpital de Lyon, liaison à la Tour du Pin, juste 10 minutes avant de prendre l'autre train, il faut traverser, et un bus dont la puissance était de 600 chevaux, il y en a de 500, hein, qui consomme entre 30 litres de gasoil au 100, et 60 s'il est obligé de rattraper un peu son retard. C'est-à-dire une catastrophe climatique. Et on était quoi ? On était 5-6 dans le bus. Voilà. Alors, en plus, la région a fait pression sur les élus locaux, donc tu dis pour installer... Du covoiturage, comme si le covoiturage était écologique.
Alors André, tu évoquais à l'instant le bricolage éhonté que l'on vit depuis deux ans sur cette ligne. Effectivement, tu faisais allusion à des trains que tu prends à la volée à la Tour du Pin. C'est intéressant de s'arrêter juste une petite seconde quand même sur l'état actuel de la desserte qui est proposée aux usagers, aux habitants de l'avant-pays. Hein. Aujourd'hui, on est arrivé... à 4 voire 5 relations aller-retour Chambéry-Lyon via Pont-de-Pont-Voisin, ce qui on est très loin du compte, hein, voilà. Et la région, la SNCF, nous ont bricolé quelques dessertes via des correspondances placées à des endroits pas très judicieux, c'est-à-dire dans des gares qui sont pas prévues pour assurer des correspondances correctes, voire, comme tu le disais André, des correspondances train sur bus, très aléatoire et qui amène les temps de parcours à des choses qui ne sont pas raisonnables et qui ne sont pas incitatives.
Et pas confortables, on n'est pas, hein, qu'est-ce que t'en penses ?
Ah ben, oui, au quotidien, hein, puisque moi, je le prends tous les jours pour aller travailler à Lyon.
Et ouais, toi tu bosses à
Lyon. C'est des retards. Faut voir que sur cette ligne, la moyenne c'est 80% de trains à l'heure, et ce qui est vraiment pas bon, hein, puisque les objectifs c'est quand même en général au-dessus de 90%. Surtout vu le peu de trains qu'il y a actuellement, faut compter que très régulièrement vous allez être en retard au travail, ou même encore plus grave, je pense à ce train là qui part à 8h de l'Épingle-Lac pour arriver à Chambéry, qui draine
des gens qui
vont bosser, mais aussi les lycéens, puisque la région est en charge du transport des lycéens. Et ça a créé, pas plus tard que le mois dernier, énormément de problèmes entre les lycées et les parents d'élèves, puisqu'il y avait des lycéens qui étaient régulièrement en retard avec ce train de 8 heures qui est absent, toujours aux abonnés absents. Places to be, but I'm begging before you leave.
Alors, on a fait un petit état des lieux de la ligne, on vient de faire un petit historique. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Maintenant, il faudrait peut-être, pour ceux qui nous écoutent, hein, essayer de... Et puis vous pouvez nous appeler, hein, 06 75 80 05 119, un petit SMS que je transmettrai à nos deux amis. Et... Ils veulent peut-être comprendre le jeu des acteurs dans l'affaire. C'est qui a décidé ce massacre ?
Oui, alors, juste pour compléter l'état des lieux, hein, ce qui est très important aussi à dire, c'est que la ligne Chambéry-Lyon, bon, c'est une ligne importante, c'est une ligne historique, et aujourd'hui, elle est coupée du réseau. C'est-à-dire que quand on parle ligne ferroviaire, on parle de réseau. Et justement, aujourd'hui, c'est très compliqué pour, par exemple, partir de Pont-Louvoisin ou de Lépin pour aller à Annecy ou Grenoble. On a des temps.
Ah oui, je suis allé à La Roche-sur-Foron, alors là, 3h30.
Tout à fait.
Attente à Aix-les-Bains, attente à Annecy, pour rejoindre, 3h30 après, La Roche-sur-Foron. Donc, elle est très mal connectée.
Voilà, donc c'est très important, je pense.
Mais, bien... à ton avis, ouais. Quelles sont les raisons d'un tel massacre ? Qui a joué le rôle clé dans l'état général du ferroviaire en France, dont je vais dire un petit mot tout à l'heure, hein, je fais un petit recensement.
Alors moi, j'avais entendu la responsable de la FNAUT sur FR3 dans l'hiver de...
Fédération nationale
des usagers,
usagers du train.
Dont fait partie d'ailleurs la DUT, hein,
qui est l'association est donc, dauphinoise.
Voilà, et qui est donc...
des usagers.
Voilà, qui est donc l'institution... avec laquelle la région, la SNCF,
dialogue
régulièrement sur les relations qui
Ici, il n'y a pas de comité de ligne, qui est plus direct comme système. Il y a un comité de ligne, Chambéry, non ? Même pas.
Alors, les comités de ligne, c'est un autre sujet, hein, pour
ouais,
en parler
on en parlera, oui, oui.
Pour donc, répondre à ta question, André, donc, voilà, on est sur une ligne qui, aujourd'hui, ne fait plus réseau, c'est-à-dire que qui est, en fait, cassée en tant qu'élément d'un réseau ferroviaire régional. Alors, pourquoi la FNAUT l'a exprimé dans un reportage très intéressant en novembre 2018. La directrice de la FNAUT disait « Vous pouvez inventer toute la concurrence, les privatisations que vous voulez, vous ne résoudrez pas le problème de cette ligne tant que vous ne ferez pas des investissements massifs dans l'infrastructure. »
C'est-à-dire de mettre une deuxième voie ?
Alors, doubler...
Parce qu'ils ont déjà mis 60 millions, hein, les TGV risquaient des accidents, donc on a mis... 60 millions.
Voilà, alors là, André, tu fais référence à une opération de rénovation, de régénération de la voie, hein,
qui est
une
régénération, ouais.
Je dirais...
Ils ont changé les rails et le ballast,
voilà, une régénération,
entre Chambéry et Saint-Béron.
Entre Chambéry et Saint-André-le-Gaz.
Et Saint-André.
Et c'est une régénération de la voie qui est, bon, plutôt de bon augure, puisque quand on rénove une voie, ça veut dire qu'on lui donne un avenir.
Et donc, c'est ce que je pensais, moi.
Voilà, donc beaucoup de gens, d'ailleurs, ont été très surpris de voir comment ça s'est conclu en décembre 2018, c'est-à-dire
pas... Alors, par c'est qui le responsable?
Alors, je viens d'évoquer la question d'infrastructure, elle est au centre du jeu, aujourd'hui. Pour bien comprendre, nous, on a une sœur jumelle, hein, qui s'appelle Lyon-Grenoble, avec laquelle on partage un bout de ligne très important entre Saint-André et Lyon. Et il s'avère que cette ligne est totalement saturée.
Ouais.
Donc, nous avons besoin d'investissements lourds de manière à augmenter la capacité de cette ligne, de la ligne ensuite qui fait la portion Saint-André-Chambéry. C'est le vrai problème. Ce qu'il faut comprendre, après, on est obligé, pour bien comprendre la situation, de rentrer dans une réflexion, une analyse politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF est sous pression par les directives européennes qui visent à privatiser, à mettre en concurrence.
C'est déjà une société anonyme depuis le 1er voilà. janvier 2019.
Hein. Ben, le grand public, je pense, a pris beaucoup de retard sur la restructuration interne très importante à la SNCF. Ça fait 20 ans, en fait, qu'on assiste en interne à une privatisation rampante.
Oui, le fret dès 2006,
le fret. Et c'est sans doute le secteur ferroviaire a été sans doute le secteur le plus impacté le plus tôt par les directives européennes qui visaient à déréglementer, à privatiser.
Pour faire circuler des trains étrangers.
Voilà, tout à fait.
Pour mettre en concurrence.
Voilà.
Pour détruire un service public, alors tu veux le dire.
Voilà, tout à fait. Donc, dans ce cadre-là, la SNCF a été mise sous pression par la réforme ferroviaire de 2018. Et par M. Wauquiez...
dont cadre, des grèves mémorables, des manifs.
Par M. Wauquiez, dans le cadre de la convention TER, en 2017, M. Wauquiez a demandé à la SNCF par un véritable diktat, en lui disant, voilà, soit vous mettez les trains à l'heure sur l'axe Lyon-Chambéry-Lyon-Grenoble, soit on vous ponctionne des indemnités importantes de plusieurs millions. Donc... En fait, on s'est retrouvé, nous, pris un peu en otage dans cette, je dirais, lutte politique. La SNCF, en fait, pour pouvoir résoudre son problème de régularité, notamment sur l'axe Lyon-Grenoble, a décidé d'une solution par le vide. Et la solution par le vide, elle l'a imposée à l'avant-pays, sans doute pour des raisons stratégiques, en se disant, l'avant-pays, pays rural,
oui.
On aura sans doute... pas beaucoup de réactions et ça passera comme une lettre à la poste.
Ce qui ne sert pas. Grosse surprise.
Voilà.
Grosse surprise de leur part aussi, oui. effectivement. ouais. Et peut-être rebondir, effectivement, il y a ces enjeux européens, mais il y a aussi les prises de décision aujourd'hui. Donc il y a ces deux acteurs, on va dire région et SNCF, mais c'est mobilité plutôt qui décident les horaires TER. Hein. Donc avec ce jeu de poker menteur que tu viens de décrire. Et il y a également une autre instance, c'est réseau. C'est-à-dire qu'une fois que les vœux pieux émanent de SNCF et de région, parce qu'en général c'est fait à peu près 2 ans à l'avance, hein, c'est réseau qui va trancher, savoir à qui elle distribue les sillons. Donc les sillons qui sont des portions de voie à certains horaires.
De l'espace-temps, oui.
De l'espace-temps. Et là, il y a une nouvelle donnée hein, quand même depuis quelques années avec les réformes de la SNCF et du rail en Europe, c'est que il y a une ouverture à la concurrence et Réseau va donner priorité à celui bien sûr qui le paye le plus cher. Donc là. Même si on nous a promis des trains pour 2021, parce qu'il semblait que ce soit la fin des travaux à la Part-Dieu, donc là, il semblerait que pour 2022 émanent de bonnes nouvelles hein, de la part de Région et de SNCF Mobilité. Il faut rester très vigilant parce que cette copie va passer devant Réseau. Et c'est Réseau qui, in fine, tranchera à savoir est-ce qu'on fait passer ces trains étrangers, donc des trains italiens, mais aussi des trains espagnols hein, qui vont venir saturer le nœud ferroviaire de Grenay à l'entrée de Lyon. Oui. Donc là, il faut être très attentif encore sur cette année. pour savoir est-ce qu'on va récupérer les sillons qu'on avait en 2018 face à toutes ces menaces.
D'accord. Donc t'as appris, toi, que... Moi, j'ai rencontré les élus hein, dans le cadre de ce que j'avais dit dans une précédente émission, hein, que pour la défense des terres agricoles d'avant-pays savoyard, nous avions créé un STAPS avec la Confédération paysanne et quelques acteurs locaux. Et on a rencontré les élus de la communauté de communes du bassin d'Aigbelette. Et ils nous avaient dit, oula, vous allez avoir des nouvelles inquiétantes, puisqu'on vient de savoir que des TGV italiens prendraient le sillon. Mais ils prennent le sillon peu de temps.
Alors,
ça impacte peu, hein.
Effectivement,
si ça impacte.
Alors ça impacte parce que ça correspond à des sillons qui étaient utilisés, nous, pour nos horaires. Faut voir que après ça jouxte en plus des plages horaires qui sont des plages de maintenance de la ligne, donc on pourra pas faire passer de train non plus vraiment après. Et même si pour l'instant effectivement c'est un ou deux trains dans la journée, en plus ils utilisent plusieurs sillons, c'est-à-dire plusieurs espaces-temps, puisqu'ils vont jusqu'à Pardieu, mais après ils rebroussent chemin pour se reconnecter au niveau de Saint-Exupéry. Donc peut-être que c'est pas beaucoup de trains, mais c'est deux fois plus d'ennuis pour nous. Et au niveau des TGV espagnols, par contre, au niveau de Grenay, là, quand ils vont se connecter, on parle plutôt de 5 TGV, hein, qui feraient des Marseille-Lyon, et qui viendraient se connecter là au dernier moment sur notre ligne. Donc ça, c'est effectivement pour
Marseille-Lyon, donc par Valence, du coup.
Voilà, voilà.
Valence-Chambéry, prendre la clientèle de Chambéry.
Non, ça serait des Marseille, Marseille-Valence-Lyon.
Mais qui ne passent pas par là. Mais si, ils reviennent par là.
Ils ne passent pas par les Pins de Lac. Ils se connectent à la voie,
Saint-Exupéry.
Saint-Exupéry, quoi.
D'accord.
Mais sauf qu'ils iraient vers la Pardieu.
Ici, à ce moment-là.
Ils passent pas par ici, non, mais d'accord, de tous les cas, okay. tout ça reste des TGV, et effectivement, ça n'aura aucun impact sur les trains du quotidien. Quand je dis aucun impact, si, un impact négatif, mais aucun point positif, puisque ces trains ne s'arrêteront pas pour récupérer des passagers
à l'épin.
Ce que dit Nicolas est très intéressant, parce qu'on voit bien que, partant d'une lutte locale autour des TER, en tirant la bobine de ficelle, on s'aperçoit qu'on arrive sur des choses très politiques, très financières. Quand Nicolas évoque les sillons, on est sur la marchandisation du rail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des intervenants ferroviaires qui sont éclatés, on a SNCF Réseau, qui est une société anonyme indépendante de SNCF Mobilité, et qui est chargée de monnayer, en fait, les sillons horaires. En sachant que, je parlais tout à l'heure de mise sous pression de SNCF Mobilité par la région, par les réformes ferroviaires, mais on a aussi une mise sous pression de SNCF Réseau par l'endettement. Il faut savoir que l'État n'a jamais pris ses responsabilités d'actionnaire pour résoudre la question de l'endettement du système ferroviaire. Donc SNCF Réseau...
À cause
Réseau,
du TGV prioritaire dans les années 80 jusqu'à...
Alors c'est une longue histoire hein, ouais. Qui remonte effectivement à une trentaine d'années où l'État a demandé à la SNCF d'assumer la création des lignes grande vitesse. Depuis ce temps-là, la SNCF...
a mis le paquet sur ces lignes.
Alors la SNCF a été obligée au départ d'assumer une énorme dette qui a été, je dirais, refilée à Réseau Ferré de France. En fait, c'est un boulet qu'on se passe de structure à structure. Et aujourd'hui, c'est SNCF Réseau qui a arrêté de ce boulet et qui, du coup, est sous pression financière, donc a tendance à monnayer ses sillons horaires au plus offrant. C'est un vrai problème pour l'avenir, effectivement, de la... du service public, puisque aujourd'hui, si l'on écoute bien ce que dit la SNCF, le dernier service public existant, c'est le train du quotidien, puisque le train du quotidien est encore lié par une convention de service public avec la région autorité organisatrice de transport.
Et l'État ?
L'État, lui, peut effectivement...
Il est encore majoritaire à la SNCF,
conclure.
Société anonyme.
Alors, l'État, ouais. Bon, on pourra peut-être l'évoquer une autre fois, mais... L'État conclut un certain nombre de contrats en ce qui concerne les intercités,
ah oui,
qui sont moribonds, il n'y en a plus beaucoup.
Oui. Comme le frais, qui est moribond. Alors, si vous permettez, hein, je voudrais juste remettre un petit peu, alors on est là dans les responsabilités, on y voit très bien, pression du responsable politique de la région, SNCF qui dit on va au moins assurer le plus important Grenoble-Lyon, on sacrifie la loi, la voie, le sillon Saint-André-de-Gaz-Chambéry, et on a la privatisation, on a la dette et on a à monnayer la ligne. Et ensuite les usagers regardent comme les vaches des trains qui ne s'arrêtent plus et ils montent dans les bus. Alors en France, le secteur des transports, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez que la France ne respecte absolument pas depuis 2015 les taux d'émissions de gaz à effet de serre qu'elle s'était engagée à réduire lors de la COP21 à Paris. Adopté, qu'on avait dit. Oui, mais comme c'est pas contraignant, on est tout en retard, surtout, en particulier sur les transports. Les voitures particulières, c'est 56%. De ces émissions, c'est-à-dire les 29% de transport, hein, elles en font plus de la moitié à elles seules. Les véhicules lourds, c'est un quart, ce qui est énorme, les camions, alors qu'ils ne représentent que 20% de la circulation. Les véhicules utilitaires sont responsables de 21% de ces émissions de déplacement. Alors, entre 1997 et 2017, les infrastructures du réseau routier, c'est ça qui est intéressant à savoir, ont augmenté de 121 000 686 km. Vous entendez bien, entre 1997 et 2017, c'est-à-dire 17 plus 3 en 20 ans, on a accru les infrastructures à grands frais. Ça coûte beaucoup plus cher de faire du routier que du ferroviaire. On a accru de 121 000 km, autoroutes, voies secondaires ou nationales, soit 12%. Les autoroutes privatisées ont gagné près de 3000 km pendant ce temps-là. Comme vous savez, hein, ça bouffe les terres agricoles, ça pollue, ça tue. Bon, augmenté d'un tiers. Pendant ces mêmes 20 années, le réseau ferré exploité par la SNCF a perdu 3701 km de voies, reculant de plus de 15%. Quant aux frais ouverts à la concurrence, on l'a rappelé tout à l'heure en 2006, la masse des marchandises transportées par voie ferrée a suivi la même pente descendante. Le train assurait 15% du fret français en 2002 et maintenant 9% en 2017 et encore moins aujourd'hui. Alors, si on peut ne pas allonger la chose, on dirait que sur le Grenelle de l'environnement de Sarkozy, en 2008 et 2009, le gouvernement... Donc l'État s'était engagé à porter la part du fret ferroviaire à 25%, ce qu'a fait l'Allemagne, et nous on est à 8%. Voilà, le gâchis n'est pas seulement qu'on est en dehors des clous et qu'on contribue à faire chauffer la planète comme des malades, mais que dans cette même période de 20 ans, en 2002-2017, le ferroviaire a perdu 30 000 emplois, 15% de ses effectifs, alors que le routier en a gagné 36 000.
Bye.
Bon, les amis, comment on rebondit là-dessus pour voir comment on va engager l'avenir avec des chiffres pareils? En clair, tout pour ce qui rapporte au système du pneu, de la tôle, de l'électronique, du goudron sur la route, du pognon aux actionnaires qui s'enrichissent comme c'est pas possible vu le contrat qui a passé Villepin sur les autoroutes liant pied et poing lié l'État avec des actionnaires qui s'engraissent. Qu'est-ce qu'on va devenir dans un système dont vous avez vu l'évolution terrifiante, quoi? Alors que dans la COP21, on a bien dit, il faut remonter le frais, il faut remonter les petites lignes, et même Macron, qui au premier confinement a dit « Ah, ben on va sauver les petites lignes secondaires ». Voilà.
Oui, bah André, tu touches du doigt le vrai problème. Il faut repolitiser les enjeux, je dirais. Donc on aborde aujourd'hui la question de l'avenir d'une ligne qui est très importante pour des gens qui vont au boulot tous les jours. Ceci dit, on a aussi des enjeux très lourds en termes urbanistiques sur l'avant pays savoyard. On veut mettre 15 000 habitants en 10 ans de plus sur l'avant pays savoyard.
Une folie.
Et comme par hasard, le diagnostic de départ en 2008, donc qui présidait à la réflexion sur ce plan d'urbanisme, l'idée c'était de faire la ligne TER Lyon-Chambéry la colonne vertébrale du développement de l'urbanisme. Donc on voit bien que...
Ça fout en l'air le SCOT.
Oui, alors on voit bien que...
Le schéma d'aménagement de l'avant-pays savoyard et d'une partie de la Chartreuse.
Oui, tout à fait. Donc on n'est plus dans les clous du tout de ce qui a été réfléchi avec une certaine lenteur d'ailleurs, puisque je rappelle que ce diagnostic date de 2008. Le SCOT a été mis en place, donc schéma de cohérence territoriale qui préside à...
8 ans pour le mettre en place.
Au plan d'urbanisme qu'on voit partout fleurir. Donc ce SCOT, il est de fait totalement discrédité, ouais. Obsolète. D'ailleurs, je précise qu'il doit faire l'objet d'un bilan en 2021. Donc voilà.
Il arrive à son terme.
D'où l'urgence, je pense, partout où les auditeurs nous écoutent, là, partout où ils sont, de demander des comptes à leurs élus sur la question de ces plans d'urbanisme qui, aujourd'hui, ont du plomb dans l'aile. Ce que je voulais dire, c'est que le collectif est né d'un mécontentement très très, je dirais, normal, hein, et d'une réaction virulente, salutaire des usagers, de ceux qui prenaient le train. Je pense qu'aujourd'hui, il est urgent de passer à la vitesse supérieure, si on peut dire, et de casser en fait cette gouvernance technocratique qui est en train de nous empoisonner. On l'a bien vu, André, tu as cité la COP21, tu as cité les Gilets jaunes, au même moment justement où on posait des enjeux très importants en termes de société, vous êtes disparaître cette ligne TER. Et les élus, aujourd'hui, ils ont effectivement posé devant la locomotive en décembre 2018, et on ne les a pas revus. Le résultat n'est pas très probant, puisque 2 ans après, on n'a vraiment pas récupéré beaucoup de trains. Je pense qu'on peut donner à l'actif de la mobilisation des premières semaines du collectif les quelques trains qu'on a récupérés. Par la suite, alors on a des engagements.
Qu'il faut reprendre le manche.
Alors, on a des engagements politiques, Nicolas pourra en parler, mais on a des engagements politiques de la région qui nous dit vous allez retrouver une desserte normale sur Lyon-Chambéry, sur la Montpellier Savoyard, en décembre 2021. Bon, pour ce qu'on voit aujourd'hui, les signaux sont assez inquiétants. D'ailleurs, pour tout dire, on a une grille horaire qui devrait se mettre en place le 13 décembre, donc chaque année on a des modifications relativement importantes des dessertes, et on est aujourd'hui le 29 novembre
et rien.
Et ben les gens qui prennent le train tous les jours ne savent pas à quel train ils vont être
à quel montés, horaire ils vont être montés à partir du 13.
À partir du 13 décembre.
Alors je vous pose la question à tous les deux, hein, puisque toi tu es en liaison avec la DUT. Voilà ce que je lis sur Ma Région en Action. C'est donc le numéro de novembre, c'est tout frais, du bulletin de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, je me sentais bien dans Rhône-Alpes, je ne me sens pas bien dans Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous allez voir pourquoi. Un plan de relance du ferroviaire en Auvergne de 280 millions d'euros sur 2 ans a été signé le 5 octobre. On ne va pas se plaindre hein, qu'on relance le train en Auvergne. Je ne suis pas en train de dire les Auvergnats, vous êtes habillés et nous on est à poil. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a un plan de 280 millions d'euros sur 2 ans, signé le 5 octobre à Clermont-Ferrand, par Castex, le Premier ministre, et Laurent Wauquiez, le président de la région. Trois volets. Des travaux d'amélioration de la liaison Paris-Clermont, on n'est jamais si bien servi que par les siens, pour gagner 15 minutes. Ça fait des paquets de mignons pour gagner 15 minutes. Qui sait que ça intéresse les cadres? Parce que moi, dans un train, 15 minutes ou pas 15 minutes, comme ça, je termine de bouquiner le canard enchaîné. Et une enveloppe de 130 millions pour améliorer les petites lignes. Alors là, on est content, mais c'est en Auvergne. Et c'est 500 km de réseau. Bah, tant mieux, si l'Auvergne, qui est très enclavée, peut être désenclavée, ça sera très bien, des petites lignes qui ne ferment pas, on applaudit. Et un investissement de 20 millions sur 5 lignes de fret ferroviaire. Très bien, en Auvergne. Bon, et deuxième information, je vois dans le Dauphiné, libéré, du 12 octobre, la ligne Grenoble-Gap est sauvée. Sur Grenoble-Gap, on a travaillé d'arrache-pied, je peux vous dire aujourd'hui que la ligne ne fermera pas, dit M. Wauquiez. J'ai obtenu 10 millions d'euros de financement de l'État, la région mettra la même somme et on attaque les travaux en décembre 2020. Donc, il semble vouloir se bouger pour le train, alors même que vous avez vu, les statistiques qu'on donne globalement vont toutes dans le sens de l'abandon des voies de SNCF, moins 3000 et quelques kilomètres, je vous redonne les chiffres si vous voulez, hein. C'est un commissaire aux comptes hein, qui les donne, hein. Donc on a perdu, les autoroutes ont gagné et privatisé 3000 kilomètres, mais la SNCF, elle a perdu 3701 kilomètres de voies. Bon, eh ben espérons les copains que on va, peut-être que sans notre engagement, je ne sais pas sous quelle forme, la Chartreuse qui avait un merveilleux petit taxi sur voie ferrée qui nous emmenait de Saint-Béron sur la ligne Lyon-Chambéry à Saint-Égrève sur la ligne Lyon-Grenoble et on pourrait y transporter ses poules, ses canards, son vélo. Eh bien, les copains, je pense qu'il faudrait qu'on rétablisse, qu'on soit un peu offensif, qu'on rétablisse la ligne de tramway et qu'on rétablisse cette ligne puisque celle de Grenoble, semble-t-il, est rétablie et puis qu'on refasse quelque chose qui soit audacieux. Quand... Non ?
Alors, oui, bah moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu nous as présenté au niveau des journaux, effectivement. On n'est pas dupes, hein, on est quand même à une encablée des élections régionales, donc il faut aussi montrer qu'on investit. Je pense que, bon, Yves pourra me dire si je me trompe, mais les sommes qui sont avancées au niveau de, ne serait-ce que l'entretien du rail, c'est pas non plus, c'est pas énorme, hein, donc effectivement, ça peut paraître
oui,
beaucoup.
Oui, ça coûte 1 million le kilomètre pour rénover une voie.
Voilà, donc bon, avec 10 millions, on n'est pas non plus.
On fait 10 kilomètres.
Voilà, on va pas bien loin. Et ce que j'aurais envie, c'est que dans l'avant-pays savoyard, on ait le même genre de déclaration,
oui.
Parce que vu ce qui se profile, alors effectivement, on nous promet des trains, mais là, c'est à l'étude chez Réseau, et pour que ça passe, j'ai envie de dire chez Réseau, il va sûrement falloir à un moment donné le monnayer. Donc, puisqu'il y a d'autres acteurs qui demandent d'autres sillons. Donc, c'est ça la concurrence aujourd'hui, c'est que la région va devoir sûrement payer plus cher. Donc, il faudrait qu'il y ait des déclarations en ce sens de M. Wauquiez ou de Mme Guibert, qui est la chargée au transport.
Payer plus cher et aussi peut-être, qu'est-ce que t'en penses ? Faire les deuxièmes voies ? Puisque
oui.
Le tunnel de l'Épin, il a deux voies. On pourrait peut-être doubler la voie.
Oui, bien sûr. Alors moi, je voulais juste faire un complément à ce que dit Nicolas, mais les 150 millions pour les petites lignes auvergnates, prudence, je pense que là aussi, on est dans une stratégie politique. Il ne faut pas oublier que lors de la dernière convention qui liait la SNCF à TER, qui a été signée donc en 2017, il était question que la région, dès 2020, mette en concurrence certaines petites lignes. Et je ne voudrais pas mettre ma main au feu, mais il est fort probable que les petites lignes en question soient modernisées dans le cadre d'une mise en concurrence.
Le Puy-Brioude, par exemple.
Voilà, tout à fait. Et j'alerte quand même là aussi les auditeurs en leur posant la question, est-ce qu'il faut mieux pas garder même une gestion imparfaite par un exploitant public que confier l'exploitation d'une ligne à une entreprise privée qui de toute façon est là pour faire du profit et pour rémunérer des actionnaires.
Tu parles de quelle entreprise privée, pardon ?
Alors les entreprises privées, là aussi on
qui
est dans un jeu de
du bénéf.
La
tu
plupart
parles
du temps on est dans
réseau
un jeu de dupes. Alors on est dans un jeu de dupes parce que la plupart des entreprises privées sont souvent des émanations de ce qu'on appelle les opérateurs historiques. Allemands, anglais, italiens. Voilà, ça c'est concerne le TER, mais on a la même chose en ce qui concerne les TGV. Donc on a des gens qui vont se présenter ou pas. Je viens de voir dans la presse que notamment, je crois pour le parcours intercité sur l'Ouest, les entreprises qui étaient en liste pour prendre l'exploitation ont décidé de mettre un terme à l'appel d'offres parce qu'ils n'y trouvaient pas leur compte. Voilà,
nous avons fait un point. Merci à Nicolas, merci à Yves. Yves et Nicolas, deux acteurs clés du démarrage du collectif auquel j'ai modestement participé. Eh bien, je pense que si on ne reprend pas en main nos destinées, là, dans l'avant-pays savoyard, sous les formes diverses et variées de différents collectifs citoyens ou de différents collectifs pour les transports, pour l'alimentation, les plans territoriaux alimentaires, les PAT, ou les groupements fonciers agricoles pour se nourrir, nourrir nos enfants avec les cantines, vu ce qui arrive, eh bien, nous allons être impactés grave. Jusque-là, tout allait bien, ou presque. Et là, tout commence à se dérégler tout azimut. Je ne parle pas du Covid, je parle de ce qui nous attend après le Covid. Eh bien, si vous avez été intéressé, vous souhaitez une nouvelle émission, ce n'est pas difficile. 06 75 80 05 79, André Dunis, votre serviteur, un petit SMS, et je me ferai un plaisir de réunir autour de la table, comme on l'a fait, masqué, à 2 mètres les uns des autres, autour d'un enregistreur, cette table ronde sur bilan passé et futur et analyse globale du présent de la ligne Saint-André-le-Gaz, notre train, notre vie, notre quotidien. Merci, au revoir.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.